France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. L'esprit de décembre. Épisode 6. Une énigme non élucidée. Et si on racontait l'histoire dans l'autre sens?
Au téléphone sonne ce soir, jusqu'où ira la contestation contre la réforme des retraites? On pose la question alors que les rassemblements de protestation se multiplient depuis la décision de l'exécutif de recourir à l'article 49.3 de la Constitution. Mais il n'y a pas que dans la rue que la contestation s'exprime. C'est aussi le cas à l'Assemblée où deux motions de censure ont été déposées cet après-midi afin d'empêcher l'adoption du texte et, accessoirement, de faire tomber le gouvernement.
Le 17 mars 2023, le téléphone sonne de France Inter était consacré à ces manifestations contre la nouvelle réforme des retraites, la réforme Borne, portant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Près de trois décennies après 1995, les mêmes oppositions semblaient se rejouer. Les mêmes arguments étaient échangés et la question des retraites et du financement de la Sécu semblait toujours très loin du consensus, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
C'est comme si la politique française de ces 30 dernières années n'avait été qu'un long débat sur la question du temps qu'on pouvait raisonnablement consacrer dans sa vie à travailler, avec les mêmes arguments échangés sans relâche, d'un côté comme de l'autre. Dès lors, la question qui se pose est celle-ci. Dans quelle mesure le mouvement de 1995 a-t-il été la mère des batailles? Ce moment où la vie politique de notre pays s'est cristallisée sur cette question de notre modèle social et de son financement. Que s'est-il passé? Ou que ne s'est-il pas passé ensuite pour qu'on en soit en apparence toujours au même point après tant et tant d'années? Voyons pour commencer les répliques de 1995 dans notre vie politique. En 1997, deux ans après le mouvement, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Les Français portent alors au pouvoir la gauche plurielle qui va des communistes jusqu'aux socialistes, emmenée par Lionel Jospin. C'est la première réplique du séisme et elle est politique. Avec la mise en place des 35 heures, les électeurs répondent à la question que posait en creux la réforme des retraites. Acceptez-vous, oui ou non, de travailler davantage? Et la France répond donc non. Dont acte.
L'Assemblée nationale a adopté cet après-midi la loi sur les 35 heures par semaine en première lecture.
La question ne semble pas réglée pour autant, puisque malgré cette réforme, en 2002, Lionel Jospin n'atteint même pas le second tour de l'élection présidentielle, laissant Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Revenu au pouvoir, Jacques Chirac reprend le chantier de la réforme des retraites et fait voter, 8 ans après 95 et malgré un nouveau mouvement social, le passage à 40 années de cotisation pour toutes et pour tous, la réforme Juppé en somme. Les Français vont travailler plus, Chirac n'en est pas pour autant plus populaire. En 2010, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'idée est toujours de travailler plus, avec la perspective cette fois de gagner plus.
J'ai dit travailler plus pour gagner plus, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus?
C'est l'âge légal du départ en retraite qui est cette fois reculé, de 60 à 62 ans et pas la durée de cotisation. Un conflit social éclate et il va durer 8 semaines, mais la réforme est adoptée. En 2019, Emmanuel Macron abandonne une nouvelle réforme des retraites en cours d'examen à l'Assemblée nationale, alors que le Covid met le monde à l'arrêt. Il n'est pas question cette fois-ci de travailler plus, mais d'instaurer une retraite à points, où tous les Français seraient logés à la même enseigne. Mais il est difficile de fondre en un seul tous les régimes de retraite du pays. Les oppositions, ainsi que le Covid, ont donc raison de cette réforme. Et puis en 2023, c'est donc la réforme Borne. De nouveau, il est question de travailler davantage, nous en avons parlé. Depuis 30 ans, on évoque ce débat sur les retraites qu'il nous faut avoir, comme si cela ne faisait pas précisément 30 ans que ces débats avaient lieu. Il y a donc un mystère français sur cette question, une énigme non élucidée. Pourquoi semble-t-il impossible de se mettre d'accord sur cette question ? La réponse, à mon avis, est celle-ci, parce que la question des retraites en cache une autre, plus profonde. Archive Lou Verlet, physicien et écrivain, interrogé en 1997 sur France Culture par Jean Dev.
Lou Verlet, comment est-ce que vous avez vécu décembre 95?
Ben justement, comme une énigme, peut-être. Comme quelque chose d'une espèce de protestation un peu viscérale, diverse certainement, contre ce qu'on appelle mondialisation, mais enfin qui est certainement une accélération des inégalités à la fois dans les pays, même dans les pays les plus riches, disons, oui, entre les pays aussi.
Alors il s'agit de résister, mais face à quoi ?
Eh bien, je crois que c'est face à une espèce de déshumanisation générale, je dirais, dans lequel, de plus en plus, les gens sont traités comme des objets et se vivent dans l'isolement.
Ainsi, depuis 30 ans, il est possible que les Français s'écharpent sur une question qui n'est peut-être pas la bonne. Car il y a fort à parier que s'ils étaient heureux dans leur travail, les Français ne verraient pas d'un si mauvais œil l'idée d'y passer plus de temps. Marc-Olivier Padis, vous êtes directeur des études au think tank Terra Nova, classé au centre-gauche. Que pouvez-vous nous dire de ce que vous entendez dans la voix de Lou Verlet qu'on vient d'écouter ensemble ?
Oui, ce que je trouve très intéressant dans cette archive, c'est qu'il fait sortir ce qu'on pourrait appeler la question de la reconnaissance. C'est-à-dire pas simplement la question classique du salaire et des protections attachées au statut salarial, mais de ce qui est vécu dans le travail véritablement. Est-ce qu'on est dans le travail reconnu pour l'engagement qu'on y a, pour l'utilité sociale, pour sa personnalité? Et on a en France particulièrement l'expression d'un malaise au travail, d'un manque de reconnaissance, peut-être lié à un système qui reste hiérarchique dans la conception du management et d'un manque de prise en compte de la contribution vraiment de chacun au travail.
Mais c'est difficile de légiférer sur ce genre de choses. On ne peut pas faire une loi disant « manager de France, écoutez les gens avec qui vous travaillez », ça n'est pas possible.
Non, mais on peut faire des lois sur les objets de la négociation sociale, d'élargir ce qui a été fait d'ailleurs un peu après 1981 et progressivement, c'est-à-dire de dire l'objet de la négociation sociale dans une entreprise par les syndicats, c'est aussi sur la qualité de la vie au travail.
Mmh. Est-ce que vous diriez qu'il y a une énigme française sur cette question des retraites qui semble ne pas vouloir trouver d'issue concertée ?
Oui, ça pose la question, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on fait du surplace ? Est-ce que la France est irréformable ? Effectivement, en 2023, on s'est retrouvé avec cette situation de modernisation autoritaire verticale, sans dialogue. Alors certains disent c'est parce que les syndicats ne sont pas assez représentatifs, assez forts et sont pas assez engagés dans l'idée de la négociation. Et puis d'autres qui constatent que il y a quand même des syndicats qui acceptent de négocier disent bah, non, c'est que l'État français reste dans cette conception très très verticale, en disant ouais, on va imposer. Et donc cette absence de dialogue est quand même une constante finalement qu'on observe encore jusqu'en 2023.
Et que vous observez de tous les côtés ou que vous attribuez davantage soit au pouvoir politique, soit au syndicat ?
Non, sous François Hollande, par exemple, la réforme des retraites est parvenue à un accord. C'est la réforme Touraine, justement, donc où la CFDT était parvenue à un accord. Mais disons que c'est toujours l'idée que l'État va toujours reprendre la main par rapport aux partenaires sociaux, et donc il n'y a pas cette confiance qui est donnée aux acteurs, syndicats et patronats, pour trouver les modalités d'un accord ensemble.
La grève s'achève en décembre 1995 par l'abandon des projets de réforme de la SNCF et des régimes spéciaux. Les acquis sociaux des cheminots sont donc préservés et les aiguilleurs, conducteurs et tous les agents de conduite continuent de pouvoir partir à 52 ans. tandis que le personnel administratif et technique de la SNCF conserve le droit à une retraite à 57 ans.
Alors, il faut dire une chose, c'est qu'au moins là, on a au moins maintenu ce qu'on avait. Il faut être quand même clair, on ne peut pas dire que c'est une petite victoire, parce qu'on n'a rien gagné. On s'est simplement battu pour avoir des acquis. Les acquis qu'on avait, on les a conservés. Donc, quelque part, on a au moins eu, par rapport à la mobilisation qui a été faite et qui est très forte et qui est toujours forte, on a eu au moins les garanties qu'on avait demandées au niveau de M. Ponce par le biais du Premier ministre et effectivement le PDG de l'entreprise, M. Bailly. Alors, je vous dis, hein, on a au moins ça. Alors, les collègues m'ont parlé aussi du paiement des jours de grève. Alors, je vais vous dire, on fait la grève, mais c'est pas pour se faire payer. Moi, je le dis crûment comme je le fais. Ça, c'est clair. Il faut savoir, et les médias devraient le dire, on fait la grève, on n'est pas payé. Personne ne nous paye. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils nous ont foutus dans la merde. Et comme ils nous ont foutus dans la merde, eh ben, on va leur demander de nous les payer. Et nous les payer, s'ils veulent pas nous les payer, qu'ils nous en payent une partie. C'est, si on en est là, c'est à cause d'eux. Ils ont voulu passer un programme en force, et manque de peau, ils ont pas eu de chance. On était tous là solidaires.
Oui, c'est très intéressant parce qu'on voit bien c'est le syndicaliste qui doit revenir auprès de ses troupes pour dire on a eu ce qu'on voulait et donc ben on voit que il faut emballer ça quand même, hein, c'est pas facile, il sent qu'il va y avoir des réticences et que il va falloir les convaincre, donc c'est toute la difficulté de aussi qui est un phénomène dans l'action syndicale, c'est-à-dire que une fois que vous avez entraîner des gens dans l'action, dans la grève, vous déclenchez une dynamique et c'est qui acquiert sa propre force de mouvement d'une certaine façon. Et c'est très très difficile après d'atterrir et de dire bon ben voilà maintenant on a été dans la rue, on a manifesté, on a bloqué, on s'est arrêté, on a fait des sacrifices et ça s'arrête là. Mmh. Et c'est toujours un moment très difficile dans les mouvements sociaux d'accepter de sortir de la grève.
En janvier 1996, après la semaine de Noël qui a permis à chacun de se reposer, l'équipe des Nuits Magnétiques sur France Culture décide de retourner sur les lieux de la grève. Un reporter, Frédéric Lavignette, se rend dans une école qui s'était fortement mobilisée pour recueillir la parole de ceux qui avaient participé au mouvement.
La caractéristique dans ce mouvement, c'est qu'on luttait pour ne pas qu'on nous reprenne des acquis. Il y a 50 ans, nos anciens, je ne sais pas comment le dire. Nos parents, nos grands-parents ont lutté pour avoir une sécurité sociale. Et là, je trouve que c'est fort dans le mouvement social. Jamais on s'était mis jusqu'ici, 68, c'était pour faire avancer une société et tout. Là, c'est pour qu'on ne touche pas à des acquis, pour ne pas qu'on recule dans notre société.
Et puis en même temps, je veux dire, ce qui était intéressant, enfin moi, une des rares choses qui m'est vraiment plu dans ce mouvement, en dehors de son ampleur, c'est que c'était pas non plus simplement une opposition contre des couleurs politiques ou autres, mais que les gens discutaient aussi sur qu'est-ce que c'est que partager le temps de travail, quel projet, en fait, un peu quel projet de société on pouvait avoir envie de mettre en avant, quoi. Et ça, y compris par rapport à des politiques de gouvernement socialiste ou autre. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours qu'on rabâche depuis 15 ans au moins, sur la rigueur comptable, sur tout un tas de choses, et que c'est un discours qui manifestement ne marche pas, et que les gens ont des idées, indépendamment de leur coloration politique, et que ces idées-là, ben, elles ont circulé, elles se sont échangées, et ça, c'est intéressant.
Marc-Olivier Padis.
Oui, ce qui est très intéressant aussi, c'est cette impression qu'il faut lutter contre une régression qui ne cesse d'agresser les salariés, les Français, les retraités. Et avec un certain regret sur le fait qu'on n'est plus que dans une position défensive, et qu'on peut plus, d'un point de vue politique et social, gagner des nouvelles positions. Ce qui est assez étrange, c'est qu'en même temps, on n'a jamais cessé d'augmenter les dépenses de santé en France. Et moi, je le dis, je trouve ça très bien. Parce que souvent, quand on dit on dépense, on a l'impression qu'on dit on dépense trop, il faudrait dépenser moins. Non, mais à un moment, il faut reconnaître, c'est bien, la médecine a fait des progrès, on n'a jamais dépensé autant. Alors les gens disent on dépense moins. Non, c'est que les besoins de santé augmentent plus vite que la dépense. Et c'est pareil pour les retraites. Aujourd'hui, on est un des pays au monde qui a le système de retraite le plus favorable.
Alors comment est-ce que vous expliquez quand même ce sentiment très persistant, et persistant jusqu'à aujourd'hui, et qu'on entend absolument partout, de l'idée d'une dégradation et de l'idée qu'il faut maintenir, ne serait-ce que maintenir, des acquis sociaux ?
C'est ça qui reste, je reprendrai le mot d'une archive de tout à l'heure, assez énigmatique dans le débat français. Moi, je pense que c'est parce que la gauche a tendance à dire effectivement on est dans la difficulté, on ne cesse de remettre en cause. Donc il faut gagner plus, mais on ne voit pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait gagner. Et on ne pointe pas suffisamment les réussites du système de protection sociale français. C'est le fait que, par exemple, même s'il y a des petites retraites, la grande pauvreté dans le grand âge était quelque chose qui existait après la guerre et qu'on prend beaucoup mieux en charge, alors même que les situations familiales sont plus dégradées. Donc, dans le fond, les conservateurs attaquent le système au nom du budgétaire et la gauche défend peu les réalisations en mettant toujours en évidence ce qui resterait encore à faire, les situations difficiles, et il y en a toujours. Donc il y a un peu un malentendu sur ces débats.
En tous les cas, les cheminots défendaient leurs acquis, puisqu'ils défendaient de partir plus tôt à la retraite. Est-ce que vous pensez qu'il est légitime d'aller contre des acquis sociaux, ou est-ce que, selon vous, un acquis social doit l'être pour toujours et pour les enfants et les petits-enfants des personnes qui se sont battues pour cet acquis-là ?
Mais ce qu'on a fait concrètement, c'est plutôt ce qu'on appelle des réformes différées, ou je dirais en biseau, c'est-à-dire qu'on a maintenu des acquis statutaires pour les personnes qui étaient déjà en emploi, et les nouveaux, on les a engagés selon des statuts différents. Et donc, ce qui est légitime, c'est de ne pas remettre en cause, surtout à quelques années de la retraite, des situations de salariés qui ont organisé leur vie, qui se projettent dans un certain avenir. Et donc, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, ben non, ce que vous aviez pensé pouvoir faire dans 2-3 ans, c'est tout à fait remis en cause, etc. Donc, il y a aussi une difficulté, alors là, qui est vraiment très française, qui est de se donner du temps sur les retraites. C'est-à-dire qu'une bonne réforme des retraites, elle se planifie sur 10 ans. Or, nous, on a toujours fait des réformes court-termistes, en fait, de court terme, parce que on se dit, bah, tout d'un coup, il faut rétablir les comptes dans les 6 mois. Mais si on s'y était pris il y a 30 ans en se donnant 10 ans, bah, en fait, on aurait gagné 20 ans. Et donc, c'est plutôt ce court-termisme politique, je pense, qui est très néfaste.
Alors, dans l'archive, on entendait un homme qui parlait de la réduction du temps de travail. On était en 1996. L'année d'après, Lionel Jospin arrive au pouvoir et fait les 35 heures. Est-ce que cette victoire de Jospin, pour vous, c'est une réplique de 95, dans le sens où c'est le mouvement qui, en partie, porte au pouvoir la revendication de travailler moins ?
Alors, c'est vrai que ça peut être une traduction. En même temps, les 35 heures, c'était une revendication aussi de la CFDT, plutôt sur la qualité du travail. Et à l'époque, ce qui avait emporté la décision, c'était plutôt le chômage des jeunes. C'est-à-dire qu'on se disait, avec les 35 heures, on arrivera à réduire le chômage. C'est pas exactement ce qui s'est passé, malheureusement, puisque le chômage massif s'est encore beaucoup trop prolongé. Mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à l'émission précédente sur Pierre Bourdieu, parce que en 1998, il y a eu un petit rebond de ce point de vue-là, parce que Pierre Bourdieu avait fait une tribune qui avait fait beaucoup parler dans Le Monde, qui s'appelait « Pour une gauche de gauche », qui était une attaque en règle du gouvernement Lionel Jospin, l'accusant de mener la politique rêvée de la droite. Et donc, c'est vrai que là, on est sur des cultures de gauche très différentes.
On retourne écouter un nouvel extrait de cette archive de janvier 1996 qui faisait le bilan du mouvement.
Nuit magnétique, bonsoir.
Je croyais que ça n'existait plus. C'était plus possible dans le monde d'aujourd'hui. De toute manière, j'aurais retenu de ces grandes grèves qui auront paralysé la France, hein, faut le dire, que avec des choses jamais vues, 500 km de bouchons autour de Paris pendant la première semaine, par exemple, les gens ont toujours été en majorité favorables à la grève. Donc ça, c'est extraordinaire. Moi, je le croyais pas. Je pensais que je rêvais quand j'entendais. Et les médias ont dû s'en faire l'écho, de toute manière.
Ils ont été obligés.
Ils n'étaient pas pour nous, mais ils étaient bien obligés de reconnaître que les gens qu'ils interrogeaient disaient « Bon, bah, c'est vrai, c'est dur pour moi, je suis fatiguée, mais ils ont raison, il faut qu'ils continuent. »
Et moi, pour avoir traversé Paris à pied après une manifestation, leur tire mon chapeau parce que c'est... Hein, souvent, quand on est revenu, c'est pas marrant d'aller travailler et de revenir à pied.
Ah oui, ben nous,
franchement,
on a fait,
je me
on a fait
suis
des
dit
choses qu'on n'avait jamais faites. Moi, je me croyais incapable d'aller de Villejuif à la gare Saint-Lazare avec plusieurs fois la manif d'un bout à l'autre et de revenir jusqu'à la Porte d'Italie à pied. Ben, je l'ai fait.
Marc-Olivier Padis, que signifie pour vous ce fort soutien tout de même des Français pour la mobilisation, cette idée de la grève par procuration ?
Oui, c'était vraiment quelque chose de tout à fait frappant, et c'était un peu ce que revendiquaient les grévistes, de dire c'est pas une revendication statutaire, parce que ça aurait pas été populaire, mais bon, on se bat pour autre chose, pour l'idée du service public, pour les salariés qui ne sont pas en situation de faire grève. Et c'est ce qu'on entend aussi dans cette archive, c'est le temps suspendu de la grève, c'est-à-dire c'est ce moment où on s'adresse la parole, où on découvre des itinéraires qu'on ne faisait pas. Et ce qui me frappe aussi dans toutes ces récits, c'est qu'il y avait quelque chose, il y avait une volonté que ça se passe bien. Et ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est quand on y repense, c'est qu'il n'y avait aucun problème à l'époque. On ne parlait pas du tout de sujet de maintien de l'ordre. Il n'y a eu aucune violence, il y avait des très très grandes manifestations, il n'y avait aucune question de dispersion, d'encadrement policier. Et là, on a quand même considérablement changé d'époque de ce point de vue-là.
Et là, on peut parler des gilets jaunes. Est-ce que, ou des correspondances entre 1995 et le mouvement des gilets jaunes?
En fait, il y a deux choses très différentes, parce qu'il y a aussi, entre-temps, ce qu'il y a eu avant les gilets jaunes, il y a eu les émeutes urbaines. Et ça a été quelque chose aussi qui transformait la question sociale. C'est quoi ces acteurs, ces jeunes, la banlieue, la violence, les violences policières, justement. Comment est-ce qu'on intègre ça dans ces représentations des luttes au sein de la gauche? C'était pas très clair. Donc les émeutes à la fois de 2005-2023. Et puis les gilets jaunes, effectivement, c'est un cas de figure complètement différent, parce que là, on est complètement en dehors de l'action syndicale. Il n'y a pas de porte-parole, personne ne l'a vu venir, c'est pas du tout encadré. C'est pas des manifestations déclarées, et donc il y a des confrontations avec la police. Et même le travail des journalistes était très très difficile, puisqu'il y avait un refus de beaucoup de manifestants gilets jaunes de parler aux journalistes. Et donc au total, on est dans un mouvement social d'une nature différente, et dont les revendications étaient difficiles à satisfaire, parce qu'elles étaient quand même nébuleuses en partie.
68, c'est... On est en haut de l'expansion, après 25 ans, alors on projette vers l'avenir, on veut se libérer, on veut changer le monde, parce que le monde est solide. Aujourd'hui, peu d'idéologie, peu d'élaboration, défense d'intérêts acquis, parce qu'on se sent reculé. Je prends l'exemple des étudiants. Aujourd'hui, après le million d'étudiants nouveaux qui est arrivé ces dernières années, nous avons une population étudiante faite en grande partie de gens qui vivent très difficilement, ce qui n'était pas le cas avant, qui ont des préoccupations professionnelles à court terme et qui, étant montés jusqu'à l'enseignement supérieur avec l'appui et l'effort de leur famille, sentent qu'on les jette dans le vide. Et donc, vous avez aujourd'hui le sentiment, pour la première fois, du recul. L'avenir n'est plus assuré. Le problème n'est pas d'avoir assez d'enseignants ou assez de salles, ce sont des signes, des symptômes, c'est qu'il y a une grande préoccupation sur un avenir qui n'est plus assuré. Recul, chute sociale, ceci m'apparaît essentiel. Et en effet, Perrineau avait raison de le dire, le secteur qui bouge, c'est pas du tout le secteur le plus malheureux, mais c'est le secteur qui était installé, qui maintenant sent très bien que ça ne peut pas durer, et qu'il entre dans une zone de tempête et d'insécurité. Alors je dirais, pour prendre des images un peu à la mode qui ne veulent pas dire grand-chose, mais ce n'est pas l'explosion, c'est l'implosion.
Marc-Olivier Padis, ce que dit le sociologue Alain Touraine qu'on vient d'entendre dans cet archive, c'est qu'au fond, depuis 1968, les mouvements sociaux sont défensifs. Chacun cherche à conserver sa place et à conserver l'existant pour lui. Est-ce qu'on peut dire la même chose des derniers mouvements qui ont secoué la France, selon vous, et de ce qu'on vit peut-être encore aujourd'hui ?
Oui, par rapport à ce qu'on disait sur les gilets jaunes, les manifestations de 2023 contre la réforme des retraites, là on est revenu à une espèce de mouvement bien organisé avec une intersyndicale où la CGT et la CFDT sont restés raccord, avec une figure derrière Laurent Berger qui synthétisait tout ça. Et donc on est revenu en quelque sorte à un mouvement social classique, mais ça ne veut pas dire que la rivière est rentrée dans son lit pour autant. Je pense qu'il y a Il peut y avoir des mouvements étudiants, des émeutes urbaines, on ne sait pas trop, on sent une espèce de fragilité. Mais ce que m'évoque aussi cette idée de lutte contre la régression, c'est que, ce n'est pas original de le dire, mais c'est vrai que ça fait partie du paysage, il y a l'idée d'une crise de représentation de l'avenir, c'est-à-dire vers quel avenir collectif on se dirige. L'émancipation de la classe ouvrière, elle était aussi portée par l'idée qu'on allait à terme arriver à une société sans classe, ou en tout cas, et à un effacement de l'État d'ailleurs, et donc à un moment une résolution de toutes ces tensions. Et aujourd'hui, on est quand même plus sur un mode gestionnaire qui ne donne pas une représentation de l'avenir, et donc qui donne le sentiment de prendre les vagues les unes après les autres, et sans être en capacité véritablement de dégager un scénario alternatif. Et donc c'est ça la grande difficulté pour les mouvements de gauche.
Et comment on en sort ?
Ben, vous avez le message qui, un des messages qui consiste à dire, mais on gagne quand même des choses concrètement. Alors pas forcément pour tout le monde au même rythme, mais localement, dans des négociations, au cas par cas, entreprise par entreprise, profil par profil, difficulté par difficulté. Ce que je pense très important, c'est que ce qu'on a gagné quand même par rapport à ces grandes projections sur l'avenir, c'est que quand vous avez un grand récit collectif qui emporte, il y a quand même toujours des voix qui sont oubliées. Et donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on sacrifie comme voix ? Quelles sont les voix, finalement, qui sont mises de côté parce que ça ne correspond pas au scénario qu'on veut ? Et donc, il faut accepter de se laisser interpeller aussi par les voix qu'on n'attendait pas.
Sur France Culture, toujours en janvier 1996, la journaliste Claire Mélini avait fait une revue de presse des journaux étrangers qui tirait un bilan du mouvement social en France. Elle avait notamment retenu un éditorial des Espagnols de Cambio 16.
Et il y avait un papier espagnol qui disait, en fait, ce qui se passe, c'est la crise qui se passe en France, au-delà de l'Europe. C'est une crise, c'est un malaise qui peut être le malaise de toutes les nations un peu occidentales qui se sont ralliées au libéralisme. Et donc c'est le malaise en fait de la pensée unique, de ce libéralisme triomphant. Ce que aussi après un canard américain a dit en disant un papier, un canard qui s'appelle The Nation et qui a dit en fait ce qui se passe en France c'est le rejet de l'idéologie dominante, c'est-à-dire celle du rêve américain qui entre-temps est devenu le cauchemar américain.
L'idée que la France doit rester la France mais qu'elle ne le peut pas dans la mondialisation, est-ce que ça n'est pas l'une des clés de lecture de 1995 et des mouvements d'aujourd'hui, Marc-Olivier Panis?
Je pense que après 1995, il y avait tout ce mouvement altermondialiste qui était assez fort, mais d'ailleurs il était altermondialiste, pas anti-mondialisation, mais c'était pour la solidarité. Mais il faut dire aussi que beaucoup d'entreprises françaises et par conséquent de salariés français ont bénéficié de la mondialisation, de l'ouverture des marchés, de l'exportation. Même la RATP gagne des marchés pour des systèmes de mobilité, des métros, des systèmes de bus à l'étranger. Et donc, on est aussi un pays qui a été et qui est encore fortement exportateur, qui vit ça aussi avec sa culture, avec l'image de la culture française. Et donc, on a toujours été un pays ouvert sur le monde.
Et je laisse le mot de la fin au poète et écrivain Jacques Lacarrière.
Après tout, par exemple, alors ça c'est un avis strictement personnel, mais je trouve que dans toutes les grandes capitales européennes autres qu'occidentales, les voitures collectives sont constantes. Jamais on n'aurait l'idée de voir 10 personnes, chacune toute seule dans 10 voitures. Alors dans ces occasions-là, on vient, voilà, si on a l'habitude de faire un certain trajet, on peut s'arranger. Enfin, moi je suis pour des solutions collectives. J'estime que c'est une aberration de voir 20 personnes seules dans 20 voitures, vous voyez.
La question écologique était bien moins présente en 1995 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais Jacques Lacarrière semble avoir pressenti qu'elle était sur le point de devenir l'une des grandes affaires des décennies à venir. Mais plus encore, derrière son idée du covoiturage, l'idée d'être ensemble dans un même habitacle pour aller au même endroit, c'est peut-être ça, l'esprit de décembre qu'il voulait synthétiser. C'était 95, l'esprit de décembre, une série de Salles des archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisation Xavier Joly, Attachée de production Lily Corner et Anne-Vanessa Prévost, prise de son Alexandre Dang, mixage Olivier Arnet, documentation INA Véronique Jolivet, documentation musicale Antoine Vuillose.